Bienvenue dans le podcast pétillant et authentique Réveille ta nature. Telle une petite fée clochette, j'ai à cœur de t'emmener dans mon univers et à te guider vers plus de paillettes et de connexion au cœur. Je suis Aurore, praticienne bien-être et coach. J'accompagne les femmes qui souhaitent s'épanouir dans leur cœur, dans leur corps et dans leur esprit. Je t'invite à cliquer dans la description pour avoir plus d'infos sur mes actualités. Tu me suis ? Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode de podcast, dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Marion, donc bienvenue à Marion, bonjour à toi. On s'est rencontrés il y a quelques années, bonjour, on s'est rencontrés il y a quelques années, on a eu la chance de faire des événements, bon, c'était dans une autre vie, le temps passe, donc c'était il y a quelques années de ça, on s'était croisés. Et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu t'inviter dans cet épisode sur mon podcast parce que je trouve ton parcours très, très inspirant. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et peut-être nous raconter déjà ton cadre de vie, où est-ce que tu vis, comment ça se passe pour toi ?
Oui, donc je m'appelle Marion et je vis depuis 2 ans maintenant sur un voilier qui est maintenant notre maison, avec mon mari Yvan et nos 4 enfants qui ont de 10 à 18 ans maintenant. Et donc, comme tu disais, on s'était rencontrés dans une autre vie. Donc, on vivait dans le Nord. On n'en était pas déjà à notre premier métier. On avait déjà changé plusieurs fois, mais je t'ai rencontrée dans le cadre de salons et de ventes privées que l'on faisait, puisque je vendais avec mon mari des créations textiles en alpaga que l'on faisait nous-mêmes. Et voilà, donc c'était notre vie au moment où on t'a rencontré et au moment où on a décidé de changer radicalement et de partir vivre en voilier avec notre famille.
C'est un projet de taille. Ça a mis du temps, j'imagine.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'on a, en tout, on a mis 7 ans à préparer ce projet. Ça a vraiment été... pas simple dans la préparation parce que alors il y a plein de façons de vivre ces formes de projets, mais nous très rapidement il nous est apparu que c'était pas un projet sabbatique de partir faire un tour du monde en famille pendant 1 an ou 2 ans comme beaucoup de familles le font, mais plus d'opérer un vrai changement de vie. Donc, ça impliquait beaucoup plus de préparation en amont, qui était de se reconvertir professionnellement, en tout cas d'envisager des reconversions pour pouvoir vivre de cette manière-là. Alors, d'apprendre à naviguer, ça n'a pas été une mince affaire aussi, parce que mon mari Yvan, il ne savait pas du tout naviguer. Donc ça a été quand même des années de préparation pour lui à ce niveau-là. Et puis aussi, nous, dans notre cas, on n'avait pas les moyens de garder notre maison et d'acheter un bateau parallèlement. Donc ça voulait dire qu'on troquait en gros notre maison pour un voilier. Donc ça a été un montage pas évident à faire. Il a fallu aussi absolument tout vider et tout vendre. Alors ça faisait partie aussi des choses qu'on voulait faire, hein, justement, c'était de s'alléger sur un plan matériel.
Oui.
Donc on a eu mine de rien, ça met du temps de vider une maison, surtout une maison avec 4 enfants. Même si depuis toujours, on faisait quand même très attention à pas avoir trop de choses. Trop est subjectif, mais enfin, en tout cas, pour nous, on était déjà plutôt minimaliste, mais quand même, dans une maison, il y a des choses, oui. Beaucoup plus que dans un bateau. Et donc, voilà, ça nous a pris du temps à vider, d'autant plus que l'idée, c'était quand même de récupérer le plus de financement avec les objets de la maison. Donc, ça a pris presque un plein temps, en fait, hein, de vendre les affaires, les jouets, les meubles. Et puis, psychologiquement, c'est aussi un vrai travail parce que y a des choses... Quand on fait le tour, on s'en débarrasse vite. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à laisser aller, à laisser partir. Donc voilà, tout ça, ça a été un cheminement et au final, ça nous a pris 7 ans quand même.
Ouais, en même temps, c'est long et en même temps, c'est un changement de vie et qui, comme tu dis, qui est pas. Ouais, tu vends quoi, donc tu es obligé de tout laisser un peu derrière. Donc c'est normal que ça prenne ce temps-là aussi. En fait, j'imagine que tu vois le moment où tu as rendu les clés, où tu as vidé, quand il n'y avait vraiment plus rien, bon, ça fait toujours un petit quelque chose, hein, mais là, c'est vraiment une nouvelle vie quoi. Donc ça devait être assez intense quand même à vivre, surtout ensemble, en famille.
Ouais, c'était une vraie. Bah, ce que je dis souvent, hein, c'est que l'aventure, elle n'a pas commencé le jour où on est rentré sur notre bateau. L'aventure, elle a vraiment commencé le jour où on a eu cette idée, parce que ça a été déjà une aventure dans l'aventure, rien que la préparation, le cheminement, les réflexions aussi, parce que ça nous a. En tout cas, nous, on a fonctionné comme ça. On a voulu vraiment réfléchir au pourquoi, qu'est-ce qui nous appelait, à être dans quelque chose de vraiment construit, en fait. Et du coup, oui, tout ça prend du temps. Et c'était déjà aussi une nouvelle vie que d'être au quotidien dans notre vie d'avant, mais qui était déjà plus dans notre vie d'avant, puisqu'on avait cette perspective qui, à un moment, prenait même toute la place et qui prenait nos pensées, tout nos façons d'agir et tout notre quotidien. Et alors à la fin, à la toute fin, on va dire dans la dernière année, alors là, ça a été d'une intensité incroyable parce qu'on a même fait des travaux dans la maison pour mieux la vendre. On a vraiment fait en sorte qu'on puisse récupérer le plus de sous possible.
Oui.
Donc, ça a été beaucoup de travaux, de préparation, la mise en vente de la maison. Donc oui, c'était très intense les derniers moments.
Oui, parce que justement, tu
Et
vois,
puis
je
vider
trouve
une
que
maison.
oui, bah vider une maison. Et puis je trouve que c'est important. Enfin, je trouve que c'est intéressant de parler de ça aussi parce que bah, souvent sur Instagram, on en parlait un peu juste avant en off, mais on peut voir, tu vois, on me dit waouh, ouais, mais ça a l'air génial. Alors, on voit souvent les côtés, le côté positif, les côtés fun, et il y en a, hein, heureusement, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Mais c'est bien aussi de mettre en lumière les moments où il y a plus de résistance, où il y a peut-être des périodes de doute. J'imagine que même si il y avait dans cette vision le voilier, le bateau, j'imagine qu'il y a quand même eu des moments où tu t'es dit mince, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il y a eu des phases comme ça? Est-ce qu'il y a des moments peut-être où tu as voulu abandonner le projet?
Ah bah, on en a traversé à l'appel des moments comme ça parce que bah d'abord c'est alors on s'est longtemps demandé si on y arriverait tout court hein, parce que finalement financièrement on n'était même pas sûr de passer c'est-à-dire que le prix auquel on vendait notre maison qui n'était pas non plus une maison très très chère et le prix des bateaux, il y a eu des moments où on s'est dit, mais en fait, on n'y arrivera pas, ça ne passe pas. Et on a mis du temps à trouver le bateau qui passait. Et en plus, ça a été, enfin vraiment, ça a été des dernières minutes. Mais il y a eu des moments où on s'est dit quand même, quand les choses s'alignent, elles s'alignent, parce que dans les derniers mois, le moment de la vente. De la maison sur le plan bancaire, comme on était déjà entrepreneur, mais avec vraiment pas beaucoup de revenus. En fait, ils ne voulaient pas nous faire un emprunt, enfin un prêt, tant qu'on n'avait pas un compromis de vente signé. Et donc, ça s'est joué, mais à quelques jours près, et le bateau pouvait nous passer sous le nez. On a réussi à trouver, on va dire, le seul bateau du marché qui était, entre guillemets, pas cher, mais qui, du coup, demandait, un an de travaux. On a passé un an à vivre sur le bateau, mais dans un chantier, dans la poussière. Enfin bon, c'est. Et donc, avant tout ça, mais des moments de doute, on en a eu terriblement, même au point que très souvent, les enfants nous disaient, oui, enfin bon, vous êtes bien gentils, mais vous arrêtez pas de nous parler de ce projet, mais on le fera jamais, on n'y croit plus. Donc, on avait aussi un peu la pression au niveau des enfants qui nous mettaient le nez dans nos problèmes. Et puis, sans parler aussi des réactions de l'entourage, notamment de ma famille, qui ont été très difficiles, qui n'étaient absolument pas d'accord avec ce bateau, avec ce projet, pardon, lapsus, parce que c'est ça aussi. Et qui, du coup, voilà. Bah, ça fait partie des doutes, c'est difficile d'avoir d'avoir les proches contre soi et de continuer malgré tout, de rester persuadée de son projet. Donc oui, des moments de doute, on en a eu à l'appel.
À l'appel, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui vous a fait garder ce feu, hein? Parce qu'en plus, là, comme tu dis, t'es pas toute seule. Vous étiez quand même, du coup, avec ton conjoint et tes enfants. Est-ce qu'il y a eu une sorte, justement, de solidarité familiale? Il y a eu un, je sais pas, le fait que c'était quelque chose que vous aviez envie de co-créer ensemble. Comment t'as dépassé, finalement, tous ces moments?
Alors, déjà, je pense que la chose la plus importante, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, de dire que pendant ce temps de préparation, il y a eu beaucoup de réflexions, qu'on a vraiment questionné le pourquoi de ce projet. Et en fait, je crois que ça a été essentiel. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait qu'on ait vraiment fait un travail de fond, de questionnement, pour saisir l'un et l'autre séparément, et puis l'un et l'autre ensemble, le pourquoi du projet, eh bien aujourd'hui, en fait, c'est notre ancre, en fait, c'est quelque chose auquel on se raccroche, et je pense maintenant, aujourd'hui, j'ai la confirmation que ça me semble essentiel. C'est-à-dire, quand on se lance dans quelque chose, avoir une conscience claire du pourquoi on le fait, est important à la fois pour justement avoir un cap, en fait, savoir où on va, pourquoi on y va, et puis dans les moments difficiles où tout d'un coup tout s'ébranle et où il y a des tas de choses qui fait qu'on a à nouveau des doutes, parce que même aujourd'hui, parfois j'ai des moments de désespoir où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là dans ce merdier, cette vie si compliquée, et bien finalement de me raccrocher à mon pourquoi. Ça me permet à chaque fois de retrouver le sens, en fait. Et c'est ça, au fond, qui a fait qu'on a réussi à tenir le cap. Et puis après, du coup, ça aide aussi, étant donné qu'on a une vision claire, ça aide aussi à la solidarité, parce qu'on sait ensemble où on va, en fait.
Oui.
Donc, quand il y en a un qui flanche, l'autre rappelle à l'autre la raison d'être, et puis on se soutient. Et puis, les enfants, ils étaient... Alors, ils ont grandi, hein, parce qu'en 7 ans, ils sont passés du primaire au lycée, hein, pour la première. Et du coup, c'était important pour nous de très régulièrement leur re-questionner avec eux s'ils étaient OK pour le projet, d'en reparler. C'était vraiment un projet familial. Il y a plein de gens... qui nous ont dit mais forcément qu'ils sont d'accord parce que vous les conditionnez à ça. Mais en fait, de toute façon, quels que soient nos choix en tant que parents, on conditionne nos enfants à nos choix de vie, forcément. Oui, donc il valait mieux qu'ils voient des parents emballés et vraiment sûrs de leur projet pour se sentir bien avec tout ça, eux aussi. Mais donc, ils étaient effectivement toujours partants. Et en tout cas, c'était important de parler de ça en famille. Et ils ont vraiment été aidants, hein, dans la vente de la maison, dans les travaux. Enfin, on a vraiment vécu tout ça ensemble. C'était une super aventure.
C'est trop bien.
Donc,
c'est trop chouette.
Ouais.
C'est trop chouette parce qu'en plus, tu vois, tu leur demandes. Moi, il y a de la communication. Tu vois, c'est pas imposé parce que même dans le discours, il y aura toujours des personnes qui auront quelque chose à dire, mais je trouve que ça, c'est bien de leur poser la question et de voir qu'ils se... En fait, ils sont impliqués dans le projet, c'est pas même en tant qu'enfant, en fait. Donc, moi, je trouve ça hyper, hyper riche, en fait, même pour leur construction et tout, c'est vraiment chouette.
Tout à fait. Et puis, tu vois, ça, c'est un petit détail, mais dans les moments où on a vidé la maison, ils ont dû se séparer donc de la majorité de leurs jouets. Alors on a quand même pris un garde-meuble dans lequel on a quelques affaires parce qu'on est bien obligé de garder certaines choses, hein, des papiers de famille, des photos. Enfin bon, finalement on réalise quand on vit d'une maison qu'il y a quand même des choses dont on ne peut pas se séparer. Oui. Donc il fallait bien trouver un endroit pour garder physiquement un peu de matériel. Et puis, donc, ils ont voulu chacun garder quelques petites choses, des jouets, des objets auxquels ils tenaient. Mais la majorité, ils l'ont vendu. Et donc, moi, je vendais tout sur des plateformes ou sur des vide-greniers. Et on avait convenu que ce qu'ils vendaient, je leur restituais la moitié de ce qu'ils vendaient, mais que l'autre moitié, c'était leur contribution matérielle à l'achat du bateau. Et en fait, ça a été super fort pour eux, hein, parce que, alors d'abord, ils ont bien vendu, donc ça leur a fait un beau, une bonne petite tirelire au moment du départ. Et puis, oui, je crois que c'était vraiment quelque chose de positif dans leur implication et dans leur, presque dans leur fierté pour leur participation financière, quoi.
Complètement. Oui, ça crée de la cohésion, du soutien et c'est hyper riche en fait finalement. Comme tu dis, parce que là finalement tu passes d'un endroit, tu vois, je me posais la question, tu vois, un peu de l'ancrage parce que finalement vous aviez votre maison, vous aviez quand même des fondations et je pense que c'est essentiel, je ne sais pas, tu pourras nous en parler, mais là justement quand tu vis finalement dans un habitat qui est mobile, qui est petit, où c'est quand même niveau espace, t'as pas forcément l'espace en fait, c'est compliqué j'imagine par du fait de la petite taille. Donc je trouve que ça fait partie aussi justement peut-être des racines, des fondations qui est important finalement la famille. Donc je sais pas si ça tu peux nous en parler aussi, mais je pense que oui, ça
Tout à
c'est
fait. Et
vraiment
d'ailleurs,
oui, vas-y.
oui, tout à fait. Et au moment du départ, ça n'a pas été évident, hein, parce que c'était vraiment notre maison familiale. En plus, ce qui a été très difficile, c'est que contrairement à un déménagement où autant on fait les cartons et les objets sont encartonnés, mais les meubles, ils restent jusqu'au jour du déménagement. Or là, on vendait les meubles. Donc pendant les derniers mois, chaque jour, en fait, le profil de notre maison changeait. Il y avait des meubles qui disparaissaient. Et dans les derniers jours, il y avait, dans les chambres, il n'y avait plus qu'un lit, quoi. Et ça a été très, très difficile pour une de nos filles de perdre ce petit coin. Et d'ailleurs, ça a été incroyable parce que le jour où la veille du départ de la maison, elle est tombée dans l'escalier et elle s'est fait, mais vraiment très mal au coccyx. On a cru qu'elle se l'était cassée, finalement, non. Et moi, j'aime bien regarder la
Symbolique.
symbolique des problèmes, tout ce qui est un petit peu décodage biologique. Et en fait, le coccyx, c'est l'ancrage. Mais c'était tellement évident, en fait. Ça a été vraiment, vraiment difficile, ce moment-là, pour eux. Et puis, ce moment de battement où on est parti de la maison pour se retrouver sur le bateau. Il y a eu 3 jours où on a traversé la France pour faire le trajet petit à petit. Où on n'avait plus rien. Alors bon, ça c'est comme ça dans tous les déménagements, mais quand même en général, on passe d'une maison à une autre. Quand même là,
Oui.
le bateau, c'était un mode de vie tellement différent. On se retrouvait. Donc il y a vraiment eu quelques jours, quelques semaines qui ont été vraiment difficiles pour les enfants de se réapproprier ce nouveau lieu de vie qui n'était pas juste un changement de maison, mais un déboussolement total, quoi. Bon, après, c'est revenu vite, hein, mais c'est vrai que c'est aussi chouette d'avoir un nouvel habitat, finalement. Ça faisait partie des choses qu'on aimait bien dans cette idée d'être nomade, avec finalement sa maison qui bouge un petit peu. Et c'est vrai que tout est différent, le fait de vivre dans un petit espace, il y a un inconfort réel, hein, évidemment, on n'a plus. Le confort de la vie terrestre, on peut dire, on n'a pas de machine à laver à bord, donc les lessives, c'est toujours à l'extérieur, c'est tout un truc de faire des lessives. Là, aujourd'hui, par exemple, il fait un temps magnifique et pas de vent. Bon, ben voilà, j'en profite pour faire des lessives, parce qu'en fait, on fait des lessives en fonction de la météo, on n'a pas de la vaisselle, on n'a pas de. On a le minimum, en fait, c'est très basique sur le plan confort, et en même temps, c'est une super expérience, justement, pour pouvoir relativiser tout ça et tout le confort qu'on a dans nos vies terrestres, dont on ne se rend pas compte, finalement,
Oui.
tant qu'on n'a pas expérimenté autre chose.
C'est clair.
Donc ça fait partie des choses qui étaient importantes pour nous de montrer aux enfants, de leur faire vivre ça. Alors ça n'empêche que du coup, il y a des moments qui sont vraiment pas évidents et où ça fait partie des moments parfois de ras-le-bol et de doute où j'ai envie de tout plaquer et où je me raccroche, comme je disais, à ma raison d'être
Oui, à ton
et où tout
pourquoi.
ça repart, quoi. Voilà mon
Ouais.
pourquoi.
Et ton pourquoi, et justement, est-ce que ce que tu aimerais, tu pourrais nous partager ton pourquoi finalement? Bah, déjà, pourquoi le voilier? Et enfin, c'était quoi l'élan en fait de base?
Alors, en fait, c'est difficile de le résumer en une phrase parce que je réalise qu'il y a plein de choses qui s'y raccrochent parce que finalement, dans ce projet, il y a plusieurs choses. Il y a nos projets personnels à nous en tant qu'adultes.
Oui.
Et puis, il y a aussi le projet familial et le projet en tant que parent et de ce qu'on souhaite, à travers cette expérience, faire vivre à nos enfants. On va dire, si on peut la résumer, ce qui est arrivé de manière assez spontanée dès le départ à Yvan comme à moi, c'était qu'en fait, on était appelé par une expérience de vie extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait vraiment besoin de sentir qu'on allait vivre un truc fort, qui sortait du commun, qui allait du coup nous faire sortir des sentiers battus et en conscience. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de « je suis appelée par ça, je veux pas avoir de regrets, je veux le vivre, je veux en gros au jour de ma mort me dire « eh ben au moins je l'ai fait ». Et même si ça a été quelque chose de difficile, je suis contente de l'avoir fait.
Mmh.
Et puis il y avait aussi le côté, comme je disais un peu, sortir des sentiers battus avec les difficultés que ça implique, qui a un petit peu un côté pèlerinage, on va dire. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un but en soi, notre voyage, c'est plus un moyen aligné dans notre cheminement personnel pour pouvoir finalement continuer notre croissance personnelle, parce qu'on sait que une expérience de vie comme ça, ça va forcément nous faire vivre un voyage intérieur finalement, nous confronter à des difficultés et nous forcément nous faire explorer nos ressources intérieures et grandir, que ce soit individuellement, que ce soit en couple. Et là, pour l'instant, voilà, après 7 ans de préparation et 2 ans de vie à bord, bah, je confirme qu'on ne s'est pas trompé. Hein. C'est quand même un sacré truc. Et on peut dire que le voyage intérieur, le voyage de couple, il est vraiment fort. Alors après, je disais sur la transmission familiale, il y avait du coup, évidemment, transmettre ça à nos enfants aussi. Leur faire déjà vivre une expérience forte, parce qu'on trouvait que c'était un atout. Mais il y avait aussi, évidemment, l'ouverture au monde, le voyage, le fait de découvrir le monde, de découvrir des cultures, d'apprendre autrement. Et c'est vrai que la culture générale et les apprentissages sont quand même vraiment développés avec ce mode de vie. Les rencontres sont incroyables. Oui. Donc, on rencontre à la fois des locaux, mais aussi les gens tout simplement qui vivent en voilier, de toutes cultures différentes, de tout niveau social. Et les rencontres sont absolument incroyables. Donc, ça faisait partie aussi de nos motivations. Et puis aussi, en fait, ce qui est vraiment très important, c'était de pouvoir, en fait, par l'exemple, montrer à nos enfants que tout est possible et que quand on a un rêve, d'une manière ou d'une autre, on a les moyens de le réaliser. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, finalement, on a notre aîné qui, parallèlement à notre voyage, a construit un projet qui était vraiment pas facile, qui était de partir faire ses études en Angleterre. Ça lui a pris quand elle avait 12 ans.
Ah oui, elle est restée là-dessus, du coup.
Oui, et en fait, elle nous prouve que elle n'a pas lâché les rênes du projet. Et pourtant, c'est un projet pas facile, plus difficile qu'elle l'imaginait. Et que parfois, d'ailleurs, quand on ose quelque chose, c'est plutôt pas mal, finalement, de ne pas savoir vraiment où on va complètement. Parce que sinon, je crois que si on sait où on va complètement, on n'y va pas tout le temps.
C'est ça.
Donc, elle, c'était un peu son cas, franchement. C'était un parcours du combattant, tant le bac en candidat libre que là, le fait de pouvoir être accepté dans des facs anglaises en tant que maintenant étudiant européen, alors qu'il y a le Brexit, c'est vraiment compliqué.
Oui, c'est vrai
et
aussi.
Et en fait, là, elle aboutit à son projet après un travail colossal et une tenue de son projet en toute autonomie. Et elle nous a confirmé que c'était aussi parce qu'elle nous a vu tenir le nôtre de projet qu'elle y croyait, quoi. Donc, il y avait vraiment ça aussi dans notre démarche. qui était cette finalement cet apprentissage à nos enfants de l'audace, quoi. De l'audace, beau, hein, et de la confiance en la vie et en ses rêves.
Complètement.
Ouais.
Moi, tu vois, je t'écoute. Voilà, oui, vas-y.
Bah, en fait, voilà, notre raison d'être, si tu veux, elle est un peu globale comme ça, donc à la fois individuelle, familiale. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai même encore des moments difficiles, parce que ça arrive très souvent, hein, parce que la vie en bateau n'est vraiment pas quelque chose de facile, je me raccroche à ça et finalement je sais pourquoi je suis là. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'aide à continuer, en tout cas pour le moment. Il y a bien un jour où je serai sevrée de ça, mais en tout cas pour le moment, c'est encore d'actualité.
Oui. Mais en tout cas, oui, moi, je t'écoute, j'ai le smile, je trouve ça super, je trouve ça beau, en fait, en termes de partage, en termes de transmission. Et tu vois, finalement, en termes aussi de, tes enfants, ils partent avec un bagage, tu vois, comme tu dis, tout est possible, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans les enseignements où on est quand même dans un monde, je trouve, où on se satisfait du petit ou du, bon, acceptable. Je trouve que c'est hyper riche et hyper... Ouais, enfin, je trouve ça génial, en fait, vraiment, que tu vois qu'ils puissent partir avec tous ces outils-là. Enfin, c'est de la confiance en soi, c'est de la confiance en la vie, c'est des belles transmissions, franchement.
Oui, et puis c'est aussi la liberté de choix, c'est-à-dire que tant qu'on n'a qu'une façon de voir la vie, finalement, on ne peut pas dire qu'on ait une vraie liberté de choix. On fait les choses parce qu'on n'a pas imaginé que ça puisse se faire autrement. Or, là, ils n'ont pas vu 36 000 non plus façons de vivre, mais ils ont déjà une ouverture plus large. Et ils savent, alors il y a nous, notre changement de vie à nous, mais justement, en voyage, on rencontre tellement de choses différentes que tout ça compilé, à la fois nous, notre choix de vie différente, plus tout ce qu'ils voient au travers du voyage, leur permet d'avoir une ouverture et un panel de modes de vie différents. Et donc, j'ose espérer qu'ils pourront choisir plus en conscience leur vie à eux. Et pour ça, c'était vraiment important pour nous, oui.
Oui, non, mais c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, du coup, il y a une question qui me vient, tu vois, par rapport à ce que tu partages. C'est, comme je disais, on est quand même dans un monde où les personnes peuvent se satisfaire du petit ou du... Bon, c'est pas accessible, en fait. Il y a vraiment cette question de se dire, des fois, c'est impossible. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, je sais pas si c'est peut-être des choses que tu as transmises aussi à tes enfants, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ressent un élan? Alors, pas forcément, peu importe l'élan, finalement, tu vois, là, c'est un projet de vie, mais ça peut être un rêve. Peut-être que, je sais pas, ton rêve, c'est d'avoir un jardin et de faire de la permaculture, ou, enfin, je sais pas, peu importe le rêve, qu'est-ce que tu pourrais justement dire à quelqu'un qui a cet élan-là, mais justement qui se dit que peut-être c'est impossible, ou peut-être, en fait, c'est pas faisable. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne-là?
Non, mais c'est intéressant ta question, parce que c'est vraiment l'objet de ce que je partage sur Instagram, et non pas d'un projet de vie en bateau. C'est pas du tout ça l'intérêt, c'est tout rêve qu'on peut avoir. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je trouve que les clés pour moi, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, déjà d'ancrage, donc de vraiment plonger en soi, d'aller vraiment écouter sa petite voix, de lui donner la place, et en même temps de comprendre la raison de l'appel. Donc, c'est tout ce que j'ai dit avant. Donc, c'est vraiment trouver sa raison d'être. Parce que je trouve qu'une fois qu'on comprend la raison d'être, d'abord, comme on disait tout à l'heure, ça aide à tenir le cap et puis à se remettre dans le droit chemin quand ça commence à flancher. Mais ça permet aussi d'y aller tout court et de se dire « Bah oui, mais maintenant que j'ai la réponse et maintenant que je sais pourquoi je veux y aller, je ne peux pas ne pas y aller. » Il y a un moment, c'est comme quand on se pose des questions, quand on a des réponses, une fois qu'on a les réponses, on ne peut plus faire comme si on n'avait pas les réponses. C'est un petit peu du même ordre pour moi.
D'accord.
Donc, ça, c'est vraiment ça. Donc ça, on va dire que c'est un peu le côté ancrage. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de me projeter dans celle que je serai après avoir réalisé mon rêve. et de voir ce que je ressens d'elle. Et bah, tu vois, rien que d'en parler, en fait, j'ai la chair de poule. Je réalise qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très important dans la réalisation d'un rêve. C'est que on réalise le rêve lui-même. Mais en même temps, il faut quand même avoir conscience, et là, moi, je peux le confirmer, qu'il y a quand même un gros décalage entre le rêve et la réalité.
Oui.
Et donc, quand on réalise un rêve, on réalise le rêve, certes. Mais ce qu'on réalise surtout, c'est l'accomplissement, la satisfaction d'y être allé, d'avoir osé, de s'être dit, de pouvoir se dire « ouah, je l'ai fait ». Cette espèce de satisfaction personnelle qui est tellement enrichissante. Et il y avait ça aussi dans ma raison d'être. C'est, comme je disais tout à l'heure, ne pas avoir de regrets, ça rejoint ça, quoi. C'est me dire « je l'ai fait ». Oui, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été exactement comme je voulais, et en même temps, tant mieux, parce que ça m'a ouvert des tas de portes que je n'avais pas imaginées. Et c'est tout ça, en fait, qui est extraordinaire dans la réalisation de quelque chose. Et tant qu'on n'ose pas et qu'on ne le fait pas, en fait, on n'ouvre pas toutes ces portes-là, et ne serait-ce que la porte de cette satisfaction personnelle, cette fierté, cette sensation d'accomplissement et de plénitude. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis après, peut-être la troisième chose qui me vient là, c'est, et ça, c'est peut-être le plus difficile, je pense, pour de nombreuses personnes, c'est qu'en fait, la voie de la peur nous rattrape souvent. C'est-à-dire que c'est toujours des « oui, mais si je fais ça, je vais avoir le risque de, et voilà ce qui peut m'arriver ». Mais oui, ça aussi, ça nous a rattrapés à un moment donné, nous, parce qu'on a tout plaqué, on a plaqué notre vie professionnelle, on doit tout reconstruire. Donc évidemment, on se dit, mais mince, c'est complètement de la folie, là, j'arrête, je repars de zéro, en plus avec 4 gamins, et puis en plus on part en mer, avec tout ce que la mer peut faire, peut avoir de dangereux. Donc évidemment, les risques, de toute façon, quand on ose un projet, quel qu'il soit, on va toujours trouver des prétextes, et on va toujours trouver des raisons qui nous font suffisamment peur pour ne pas y aller.
Oui, donc finalement,
quel que soit le projet.
Oui.
Et donc voilà, donc il y a un moment, il faut faire un choix, effectivement. Soit on choisit la voie de la peur et à ce moment-là, on n'y va pas.
Oui.
Soit on choisit la voie de la confiance en se disant, et c'est ce que je me suis dit, qu'en fait, dans cette histoire, je savais que j'avais plus à gagner qu'à perdre. Et comme j'avais plus à gagner qu'à perdre, je ne savais pas encore forcément tout ce que j'allais gagner, mais j'étais absolument persuadée que j'allais plus gagner que perdre.
Oui.
Et ça fait aussi, on va dire que c'est la troisième chose qui m'a vraiment aidée à y aller.
Oui. Oui, en fait, finalement, c'est suivre l'élan, c'est préparer. Il y a une question de préparation, mais un peu de saut dans le vide, finalement, parce qu'on imagine, comme tu dis, plein de choses, mais en fait, on ne sait jamais, dans la réalité, comment ça va se matérialiser, finalement.
Complètement. Non, complètement. Et puis, si on attend d'être 100% prêt avant de sauter, voilà, tu sautes jamais.
Oui. Non, mais ça, c'est sûr.
Donc, il faut accepter. Il y a une part de lâcher prise énorme. Il y a une part de s'en remettre à une forme de... Alors, chacun peut le voir comme il veut. Hein. Il y en a, ça peut être une croyance en une spiritualité, en Dieu, en... Moi, ça, c'est plutôt la confiance en la vie, tu vois, parce que je crois que la vie, elle connaît toujours le chemin et qu'à partir du moment où je suis appelée par quelque chose et où je le veux et que je mets mon énergie dans quelque chose qui me semble être bon pour moi, du coup, je pense que la vie, elle m'ouvrira les portes qu'il faut m'ouvrir. Oui. Donc, à ce moment-là, ça m'a... Voilà, ce qui dépasse certaines personnes, et notamment les personnes de notre entourage qui peuvent être très inquiètes par le projet, mais parce qu'on a des visions complètement différentes.
Ah oui.
Elles sont guidées par la peur, on va dire, et par tout ce qui, effectivement, objectivement, peut faire peur. Et je peux tout à fait comprendre, il y a des raisons objectives d'avoir peur. Mais moi, j'ai choisi un autre chemin. Qui est celui de la confiance, qui ne veut pas dire que je n'ai pas peur.
Ah oui,
il y a des moments où j'ai peur. Mais je choisis de ne pas me laisser envahir par cette peur et de faire plus peser la balance dans la voie de la confiance, mais parce que j'en suis intimement persuadée aussi. Donc,
Finalement, la peur, en fait, elle est là à la base pour nous protéger, mais justement, quand il y a une peur aussi, je pense, enfin moi, c'est comme ça que je le vois, quand il y a une peur, c'est qu'il y a aussi une voix sur ce qui est important pour nous, parce que sinon, on n'aurait pas peur.
Complètement.
Aussi, parce que
Complètement.
j'imagine que des peurs, t'en as eu,
Oui, tout à
forcément.
fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que la peur, effectivement, elle a une raison d'être par rapport à nos besoins à nous. Et il y a eu des moments, par exemple, en couple, on n'avait pas du tout les mêmes peurs avec Yvan.
Oui.
Et on va dire que moi, j'avais sans doute plus de peur que lui au global.
Ouais.
Mais il y a eu vraiment des points positifs à ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à utiliser mes peurs pour poser des conditions, parce que mes peurs, en fait, elles étaient révélatrices de mes besoins aussi. Alors,
Oui.
autant il y avait des choses que je rationalisais en me disant, non, là, voilà, objectivement, et je savais que c'était aussi une manière pour moi de dépasser certaines peurs, et de me prouver que j'avais raison de pas laisser la peur prendre le dessus. Mais il y a aussi certaines peurs où je me disais, bah, il faut que je les utilise pour justement, notamment vis-à-vis d'Yvan, bien lui montrer quelles étaient mes conditions à moi. Par
Oui.
exemple, notamment en bateau, bah, lui, il y a des choses qui lui font beaucoup moins peur que moi. Et donc, j'ai fini par ça a été très, très compliqué entre nous au départ, hein, la navigation, parce qu'en plus, pour l'instant, on était mari, femme dans une vie traditionnelle. Donc, les problématiques de mari et de femme que tout le monde connaît,
Bah
et de
oui.
parents que tout le monde connaît. Oui, donc du coup, en fait, on a eu des moments difficiles au départ parce que on avait vraiment à créer une nouvelle relation qui allait au-delà de ce qu'on connaissait, qui était une vie de couple et puis une vie de parents. Là, en fait, on avait un nouveau rapport qui était un capitaine et son second. Et c'était complètement nouveau pour nous. Moi, Yvan, je l'avais jamais connu en tant que capitaine de bateau. Donc, c'était vraiment une nouvelle relation à construire, une nouvelle confiance à lui accorder. Et comme on a des peurs différentes, moi, il y avait des choses où je me sentais pas à l'aise par rapport aux navigations, qui lui posaient pas de problème à lui. Et en fait, c'était du coup difficile parce que moi j'étais inquiète sur certaines choses et je lui prenais la tête. Il n'arrivait pas à comprendre. Et en fait, c'est en comprenant quelles étaient mes peurs et donc
Oui.
quels étaient mes besoins que j'ai réussi à les lui exprimer et en lui disant, voilà, moi en navigation ou avant une navigation, j'ai besoin de ça. Je veux que ce soit comme ça et du coup, je serai tranquille et ça ira mieux. Donc, utiliser ses peurs, c'est aussi quelque chose de très positif parce que ça nous permet de comprendre effectivement comment mieux préparer le terrain et de façon à ce que les choses se vivent mieux pour soi et puis pour les autres aussi. Donc, en fait, effectivement, il ne faut pas se laisser envahir par la peur, mais des peurs, on en a forcément. Et utiliser les peurs pour justement mieux préparer son projet, je pense que c'est aussi une clé.
Oui, en fait c'est un peu un jeu, tu vois, je vois ça un peu comme une danse, dans le sens où en fait la peur elle va te passer un message comme tu disais en fait par rapport à tes besoins à toi, mais elle peut aussi te bloquer, te figer en fait dans une situation où tu sais plus bouger et là c'est là où ça pose problème finalement quand tu restes figé dans une posture ou dans un justement tu vois par rapport à des personnes tu vois qui peuvent pas comprendre, tu disais tout à l'heure qui sont dans leur peur, elles vont rester figées sur leurs croyances finalement. Elles vont peut-être pas se dire, ah bah oui, peut-être que ben Marion, elle avait cette optique-là, peut-être qu'elle a envie d'aller explorer ça. Donc en effet, je pense que c'est intéressant de jouer avec elle et de se questionner sur, ok, ben j'ai peur, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaye de comprendre pourquoi et d'y aller? Ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que je reste figée là-dedans, quoi?
Ben oui, tout à
C'est
fait.
ça.
Non, parce que la peur, elle peut être vraiment paralysante, et notamment dans un projet. Parce qu'encore une fois, de toute façon, tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, à un moment donné, se retrouvent face à la prise de risque et donc face à la peur. Et le fait que certains y vont et d'autres pas, ben, c'est non pas l'absence de peur, mais le fait de pouvoir ne pas se laisser guider par la peur,
Être audacieux, finalement.
rationaliser quand même. Oui, être audacieux, rationaliser certaines peurs, je pense, faire un travail sur soi quand même, parce qu'il y a, y a, Il y a quand même de ça aussi. Et puis, oui, utiliser ses peurs pour mieux comprendre ses besoins et comment bien baliser le chemin pour aller vers ce projet, quoi.
Oui, en fait, c'est donc, travailler un peu sa sécurité. Je vois ça un peu, tu vois, comme la sécurité intérieure, finalement. Tu parlais des fondations, tu vois, tout à l'heure. C'est travailler ses fondations pour se dire, bon, moi, je mets en place des choses, je pose un terrain, je pose des fondations, en fait, finalement. Et après, il y a des choses que je contrôle et des choses que je ne contrôle pas, de toute façon. Donc, je me sécurise, moi, et puis on verra après.
Bah oui, et d'ailleurs, moi, tu vois, notre projet et notre page Insta, on l'a appelé l'encre et les voiles. Ça a été une évidence depuis le départ parce qu'en fait, derrière cette symbolique de l'encre et les voiles, il y a tellement de choses, et notamment celle-là, qui est l'ancrage. Parce que de toute façon, pour bien se lancer dans un projet, bah, il faut de l'ancrage, donc à la fois dans son pourquoi, dans sa sécurité intérieure, justement, pour pas se laisser complètement envahir par ses peurs et puis rester coincé. Et c'est grâce à cet ancrage qu'il y a une libération de plein potentiel qui, pour moi, sont imagés par les voiles. Mmh. C'est vraiment, vraiment de ça dont il est question. Donc, on est pile dans la thématique, en fait.
Complètement, mais c'est génial. J'aime bien la symbolique, mmh. En tout cas. Je me suis doutée, je ne sais pas, c'est parlant, en fait, tu vois. Même ton pseudo, ouais. il est parlant, ouais. Ça se ressent, je trouve.
Oui, et puis c'était par rapport à mes enfants aussi. On dit toujours, voilà... En tant que parent, on donne des racines et des ailes à nos enfants. Bon, bah là, une encre et des voiles, finalement, c'est exactement la même image.
Oui.
Et c'est un petit peu ça aussi. Je pense que dans l'ancrage, c'est des valeurs, la capacité justement de s'interroger sur ses besoins à soi, s'ancrer dans des liens important avec sa famille et avec les rencontres que l'on fait, et en même temps la liberté de choix dont on parlait tout à l'heure, la conscience que tout est possible, ça fait partie du déploiement du plein potentiel et donc des voiles.
Complètement.
Pour moi, il y a vraiment ça, quoi.
Ouais, non, mais c'est complètement juste. C'est complètement juste.
Donc en fait, ça peut, par rapport à ta question, ça peut vraiment être ça qui est la conclusion par rapport à quelqu'un qui ressentirait de l'élan vers quelque chose, une forme d'appel. C'est ça en fait, c'est ancrage et libération du plein potentiel. Alors c'est pas forcément évident du tout, hein. Ça peut mériter parfois un vrai travail intérieur, même un accompagnement éventuellement, parce que parfois ça peut ne pas se faire tout seul, ou en tout cas avec des outils, avec mais c'est vrai que c'est tout à fait ça en fait, ancrage et libération de potentiel pour y aller, quoi.
C'est beau tout ça, ça fait rêver, ça donne envie.
C'est clair. Bah oui, je crois que pour moi, le rêve le plus important, c'est pas le rêve lui-même, c'est la réalisation du rêve, quoi, oui. En fait. Réaliser un rêve, c'est un rêve en soi, c'est ça la quête, en fait. C'est ça, vraiment.
Oui, bah, c'est le chemin, hein, comme on dit, hein. Finalement, je sais plus quel proverbe dit ça, mais finalement, c'est pas l'objectif au bout, c'est le chemin qu'on mène pour arriver jusqu'à cet objectif-là et à ce rêve-là, en fait.
Tout à fait. C'est un reel que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment ça. Et pour moi, notre voyage, c'est ça. Ce n'est pas un but du tout en soi. Ce n'est pas un objectif. Non, non, c'est vraiment un moyen sur notre chemin pour pouvoir nous développer, avancer, grandir, s'aligner de mieux en mieux, en fait.
Oui.
Donc, c'est oui, la vraie quête, c'est ça.
Super. C'est beau, en tout cas. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre, justement, si on a envie de voir ces aventures?
Alors, Instagram, essentiellement, où je partage, on va dire, le journal de bord de mon changement de vie. C'est comme ça que je le présente. Donc, je suis crue, c'est-à-dire que je parle justement de tout ce que tu disais tout à l'heure, les côtés sombres aussi et les moments de doute, parce qu'ils font vraiment partie du chemin. Donc, avec authenticité, c'est vraiment ma règle principale. Tout ce qui tourne autour de ce que je vis, donc on va dire des inspirations autour des rêves, de l'éveil de conscience et de l'audace.
Waouh, des super valeurs.
Sur Instagram, voilà, exactement. Et donc, sur Instagram essentiellement, Facebook aussi, et puis on a un site internet, mais je suis en train de le remanier actuellement, mais il sera bientôt prêt.
D'accord. Du coup, de toute façon, moi, je partagerai ton lien dans la description de cet épisode pour les personnes qui veulent découvrir Marion et sa famille. Comme ça, ça peut aussi être une belle découverte. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as partagé, ce que tu as pu partager là pendant cette petite heure ensemble. Il y avait quelque chose encore que je voulais te poser comme question. C'est que tu as pu, tu sais, hein, le podcast s'appelle Réveille sa nature. Est-ce que tu aurais un mot à conseil pour justement réveiller sa nature? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi?
La connexion. Connexion à soi. Bon, je crois que c'est encore une histoire d'ancrage.
Oui,
je
oui.
reviens toujours à la même chose. Pour moi, c'est ça. Oui, réveiller sa nature. Si c'est sa nature profonde, ça passe par... par plonger en soi, dans son corps, dans sa spiritualité aussi, et ressentir, être dans le ressenti. Donc, c'est vraiment une connexion à soi pour pouvoir saisir sa vraie nature et se dégager des croyances dans lesquelles on s'est développé, qui ont tendance à nous façonner. C'est pas du tout quelque chose de négatif en soi, mais ça nous détourne parfois de notre propre nature.
Oui.
Et du coup, pour se connecter à sa propre nature, ben, ça demande un travail, effectivement, de connexion à elle. Qui peut être long, je pense. C'est pas quelque chose de forcément évident pour tous, quoi.
C'est un chemin à explorer avec de la patience.
Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, moi, mes grandes valeurs, la première, c'est la confiance. Et les deux qui suivent et qui en découlent, c'est patience et persévérance.
Oui, bah oui.
C'est vraiment ça. Parce que ça vient pas, de toute façon, rien ne se fait tout seul par un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Donc, tout travail que l'on fait demande confiance, patience et persévérance. Et celui-là aussi, se reconnecter à sa nature. Et oui, c'est un vrai travail de fond, quoi.
Super. Bah, écoute, je te remercie, Marion. Est-ce que tu avais encore envie de nous partager un dernier mot pour clôturer cet épisode, ou est-ce qu'on a déjà dit beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient?
Non, gratitude et remerciements à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast et de cet échange. C'est toujours super riche, en fait, d'échanger et de se laisser saisir par les questions des autres. Ça permet, enfin, c'est là où on voit que l'échange, il permet un avancement des deux côtés. Donc, j'aime vraiment bien réfléchir à tout ça au travers des questions des personnes qui m'invitent au podcast. Et vraiment, donc, je te remercie. J'aime vraiment beaucoup vraiment ce que tu fais. Et c'est très chouette de pouvoir maintenir le lien de cette façon.
Oui,
merci beaucoup.
Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et pour tes partages aussi, pour justement tous ces messages comme quoi c'est possible, tout ce que tu véhicules aussi, tout ce que tu partages sur les réseaux et ce que tu vis, hein, le fait d'avoir osé, moi je trouve que c'est très inspirant en tout cas. Donc je te le remercie également.
Ouais, merci. Pour moi, c'est vraiment important ça de pouvoir témoigner, de pouvoir justement transmettre tout ça. C'est un peu ma contribution au monde. En partageant cette expérience, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, que ça fait écho chez eux, que ça soit ils lisent ce qu'eux-mêmes pensent et que ça leur fait du bien, soit au contraire que ça les inspire et que ça les motive. Donc c'est vraiment important la transmission, le partage, et les réseaux sociaux aujourd'hui, ça de positif. Donc
il faut prendre cette chose là en effet, c'est positif. Donc c'est voilà, si vous voulez découvrir Marion, c'est sur Instagram. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un agréable moment. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode.
Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également mettre un 5 étoiles, bien sûr. À très bientôt dans le prochain épisode.